j'ai entendu parler d'un galion qui a coulé au large de la Jamaïque. Ses cales sont remplies d'or, de pierres précieuses et de luxueuses étoffes. Un vieux parchemin trouvé au fond d'un grenier poussiéreux nous conduira jusqu'à lui. Si vous n'avez pas le mal de mer, suivez-moi. Si vous avez le mal de mer, suivez-moi quand même. Nous voguerons sur les flots, du lagon de Maracaibo au rivage de Zanzibar, de l'île d'Hispaniola au dock de Liverpool, de Valparaiso au détroit de Malacca. Mascaré, votre nouveau magazine consacré à la culture maritime, aux boucaniers et aux terrae incognitae. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de Mascaré, la deuxième de la série. Alors, je vais commencer par vous raconter une anecdote qui est arrivée au début de l'année 2021, au mois de mars pour être plus précis. Il s'agit d'un tanker, donc d'un porte-conteneur, qui s'est ensablé dans le canal de Suez. Vous me direz que l'ensablement d'un bateau de transport de marchandises est une anecdote bien banale, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas tant que ça au final. Ce tanker qui s'est ensablé à l'entrée du canal de Suez, ça a été une image qui était très impressionnante, puisque c'est quand même un tanker, c'est l'équivalent d'un immeuble de plusieurs étages. Et juste à côté de ça, on voyait une pelleteuse qui travaillait à côté pour tâcher de le désensabler. Et globalement, vous aviez un peu l'impression d'avoir David contre Goliath. La conséquence qu'a eu cet ensablement, ça a été une paralysie partielle du trafic maritime mondial, puisque vous avez de nombreux tankers, de nombreux porte-conteneurs en provenance d'Asie qui passent par le canal de Suez. Ainsi, il y a eu une sorte d'embouteillage de porte-conteneurs qui ne pouvaient plus avancer, qui ne pouvaient plus livrer leurs marchandises. Donc vous en avez certains qui sont restés stationnés plusieurs jours, voire quelques semaines, le temps que le flux se réorganise, et vous avez d'autres bateaux qui ont préféré passer par le cap de Bonne-Espérance, ce qui a quand même fait un sacré détour de plusieurs jours. Cet épisode, il illustre parfaitement les flux et les nouveaux flux de la mondialisation avec ce transport de marchandises, puisqu'en gros, on estime qu'il y a à peu près 80% des marchandises mondiales qui sont transportées par la voie maritime. Et nous allons voir dans le courant de cette chronique les états des flux actuels, les conséquences de cette physionomie du trafic international. Nous verrons également les enjeux de la décarbonation du transport maritime, en corrélation avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans un dernier temps, nous verrons la situation de l'infrastructure portuaire dans les Hauts-de-France. Tanker à l'assaut des océans, c'est tout de suite dans Mascaré. Comme je vous le disais en introduction, à peu près 80% des marchandises dans le monde sont transportées par la voie maritime. La voie maritime, par le biais des tankers, des porte-conteneurs, est donc un des rouages essentiels des chaînes logistiques mondiales. Chaînes logistiques qui sont d'autant plus importantes avec l'explosion à la fois du commerce en ligne et de l'essor des produits manufacturés en provenance du continent asiatique. Ainsi, et je vous l'ai dit dès le début de la chronique avec l'anecdote du tanker qui s'était enlisé à l'entrée du canal de Suez, lorsqu'une perturbation est rencontrée dans cette chaîne d'approvisionnement logistique, c'est un peu tout le commerce mondial qui va d'une certaine manière commencer à s'enrhumer. Et aujourd'hui, la situation du transport maritime international, elle est particulièrement complexe en raison, on va dire, de ces tendances de fond des flux de la mondialisation, mais aussi en raison de la crise sanitaire qui a de nombreux impacts sur les infrastructures portuaires. Et parmi les perturbations qui sont rencontrées à l'heure actuelle, il y a par exemple la congestion de certains terminaux portuaires, aussi bien pour les produits à l'import qu'à l'export. Il y a aussi des retards non prévisibles des navires qui ont des répercussions sur les opérations portuaires, puisqu'aujourd'hui les dates d'escale, c'est-à-dire qu'en gros les dates d'arrivée et de départ des navires dans les ports manquent de fiabilité, ce qui pénalise les autorités portuaires qui doivent s'organiser en conséquence. Certains ports commencent aussi à refuser des conteneurs vides en raison du phénomène de saturation des infrastructures portuaires. La crise sanitaire de 2020-2021 a entraîné l'engorgement des ports de conteneurs qui sont vides, c'est-à-dire des conteneurs qui ne peuvent pas repartir faute de marchandises. Et il y a aussi aujourd'hui une augmentation du temps de stationnement des navires dans les ports, ce qui oblige les autorités portuaires à gérer les flux de navires de manière différente et à devoir s'adapter. Au mois d'octobre, donc il y a quelques jours de cela, un fait marquant a été noté à Los Angeles, puisque vous avez des navires qui sont restés bloqués en raison justement de cette congestion portuaire pendant plusieurs jours, voire pour certains sont restés bloqués pendant une dizaine de jours. Mettez-vous à la place des affréteurs et des armateurs, c'est une situation économique assez désastreuse. Alors les conséquences de cet engorgement portuaire sont des coûts supplémentaires qui sont répercutés aussi bien au niveau des clients importateurs qu'exportateurs. C'est toute la chaîne logistique, toute la chaîne de commandement du transport maritime qui est impactée par cet engorgement et qui voit donc le coût des marchandises qui augmente. Et pour illustrer cette augmentation du coût du transport maritime, les spécialistes utilisent un indice qui s'appelle l'indice Freightos Baltic, qui est vraiment l'indice de référence en matière du prix des routes maritimes. Et cet indice, il a été multiplié par 3 en moins d'une année. Par exemple, aujourd'hui, un voyage de la Chine vers la côte ouest des États-Unis, le port de Los Angeles par exemple, va coûter 3 fois plus cher qu'il y a un an, soit 7 000 $, ce qui représente une véritable fortune pour du transport de marchandises. La crise sanitaire, elle a eu différents impacts, mais pour les compagnies maritimes, d'une certaine manière, elles sont passées d'un extrême à l'autre. Elles étaient dans une situation qui était surcapacitaire au début de la crise sanitaire, puisqu'il y avait le commerce mondial s'est retrouvé à l'arrêt, et elles se sont retrouvées finalement dans une situation où ça coûtait presque plus cher de transporter des boîtes sur des tankers que de les laisser au port. En 2021, il y a eu un effet de rattrapage chez les consommateurs européens et américains, qui se sont précipités sur les produits manufacturés venant principalement d'Asie, puisque d'une certaine façon, ce sont les économies réalisées sur les postes de dépenses de loisirs, essentiellement pendant les différents confinements, qui font qu'il y a un effet de rattrapage et qu'aujourd'hui, les consommateurs achètent en masse. Le transport maritime, à l'instar des autres modes de transport, que ce soit le routier ou l'aérien, est soumis à de forts enjeux environnementaux, à une pression environnementale pour diminuer son empreinte carbone. Alors pour être très clair, le transport maritime, il représente à peu près 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En valeur absolue, on pourrait considérer que c'est peu, mais au vu des flux du transport maritime international, les enjeux de décarbonation sont énormes pour réduire l'empreinte carbone de cette activité sur la planète. L'horizon de décarbonation, en tout cas quand on parle de décarbonation, c'est vraiment de baisse de l'empreinte carbone d'une activité. Pour le transport maritime international, il est à peu près à 2050, avec un premier point de passage en 2030 et un horizon ultime qui est en 2070. La date de 2050, elle est retenue puisqu'on estime que 2050, ça peut être une date de déploiement de technologies dites matures pour être efficace dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelles sont les pistes technologiques qui pourraient être utilisées pour réduire l'empreinte carbone du transport maritime? Il y a tout d'abord les carburants de synthèse biosourcés, liquides ou gazeux, la propulsion électrique qui serait plutôt utilisée pour les services portuaires, comme par exemple pour les remorqueurs qui accompagnent les navires à l'entrée ou à la sortie des ports, l'utilisation de la force du vent, puisqu'aujourd'hui l'hypothèse d'avoir des tankers qui fonctionnent avec des voiles est de plus en plus sérieusement envisagée, la réduction concertée de la vitesse commerciale. Alors quand on parle de concertée, c'est qu'effectivement ce n'est pas un seul armateur qui peut décider de baisser la vitesse de ses navires ou une seule route qui sera concernée. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement global de réduction de la vitesse. Et qui dit réduction de la vitesse dit aussi réduction de l'entrée et de la sortie des flux, ce qui aurait un impact sur les chaînes logistiques d'approvisionnement en produits manufacturés notamment. Parmi les autres pistes, il pourrait y avoir l'optimisation des navires, aussi bien au niveau des moteurs, des carènes ou des matériaux utilisés pour la construction des navires. L'autre solution qui pourrait être utilisée, qui est bien connue par les navigateurs solitaires lors des grandes compétitions, c'est le routage météorologique pour optimiser les trajectoires via les vents et les courants. Pour une décarbonation efficace, il n'y a pas une seule solution qui doit être utilisée, mais c'est plutôt l'utilisation de l'ensemble des panels technologiques évoqués qui serait le plus efficace et en tout cas qui permettrait de déployer des solutions rapidement. Dans les autres hypothèses de travail qui existent pour la décarbonation, on parle fréquemment du GNL et de l'hydrogène. Or, le GNL, c'est un gaz fossile qui est fortement émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une solution qui est utilisée par les armateurs aujourd'hui et par les constructeurs, puisqu'elle est disponible immédiatement et qu'elle est efficace. Bon, la véritable question qui se pose, c'est est-ce que le GNL est vraiment une solution de long terme ou est-ce que c'est plutôt une solution transitoire dans cette dynamique de transition énergétique du transport maritime? L'hydrogène peut être vu comme une alternative efficace lorsqu'il est biosourcé. C'est-à-dire que, quand je dis biosourcé, c'est-à-dire qu'il n'émane pas d'un réformage du méthane. L'hydrogène, c'est une bonne solution pour le cabotage, car ses capacités d'emport sont assez limitées. Pour des navires qui effectuent des liaisons intercontinentales, par exemple les produits manufacturés venant d'Asie vers les États-Unis ou vers l'Europe, les carburants de synthèse biosourcés comme le biodiesel ou le biogNL seraient davantage adaptés et seraient plus efficaces. D'ailleurs, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne s'y trompent pas au sujet de l'hydrogène décarboné, puisque en France, un plan hydrogène a été présenté au mois de septembre 2020, un plan de 7 milliards d'euros qui est inclus dans le plan de relance. L'idée, c'est vraiment d'avoir une filiale française de l'hydrogène et de l'électrolyse, pas uniquement pour le transport maritime d'ailleurs, mais pour l'ensemble des modes de transport et la production d'énergie. Parlons maintenant du système portuaire des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France ont la première façade maritime française, avec trois ports principaux, même s'il y en a d'autres. Parmi ces trois ports principaux, le grand port maritime de Dunkerque, les ports de Boulogne et les ports de Calais. Pour donner quelques chiffres, le port de Dunkerque, c'est le troisième port maritime français. Les ports de Boulogne et de Calais, qui aujourd'hui fonctionnent de concert, sont les premiers ports de France en termes de trafic passager et de trafic de pêche. Boulogne et Calais constituent le premier centre européen de transformation et de commercialisation des produits de la mer, et c'est surtout vrai d'ailleurs pour le port de Boulogne, qui a une tradition historique dans la transformation des produits marins. Et Calais-Boulogne, c'est également le quatrième port en matière de transport de marchandises. Alors en ce qui concerne les ports des Hauts-de-France, même si ce sont des ports majeurs hein, dans le paysage portuaire français, avec notamment le port de Dunkerque qui a une croissance de son activité soutenue ces dernières années, même avec la crise sanitaire, puisqu'il y a un rebond qui est noté ces dernières semaines, ces derniers mois, pour les ports des Hauts-de-France, la concurrence, elle se porte essentiellement dans ce que l'on appelle le range nord-européen, avec les ports du Benelux, et notamment les ports belges, Anvers, Zeebruges, Gand, et les ports hollandais comme le port de Rotterdam. Aujourd'hui, les ports du range nord-européen, les ports du Benelux, connaissent une situation de saturation, à l'instar de nombreuses autres infrastructures portuaires dans le monde, et cela constitue une opportunité pour les ports des Hauts-de-France pour récupérer du trafic de marchandises. Au niveau des infrastructures, il est à noter le rôle futur que jouera le canal Seine-Nord-Europe dans l'alimentation des flux de marchandises pour ces infrastructures portuaires, puisque le canal Seine-Nord-Europe sera une infrastructure qui permettra de relier les bassins fluviaux du nord de l'Europe, en Belgique aux Pays-Bas, aux ports de la région parisienne et du Havre, avec des plateformes qui seront situées sur le territoire des Hauts-de-France et qui permettront justement de capter du transport de marchandises. Autre projet très important pour les Hauts-de-France, c'est le projet Port-Calais 2015, qui va permettre de doubler les capacités actuelles du port de Calais en créant un nouveau bassin vers la mer au nord des installations portuaires existantes. Et ces grands travaux d'aménagement vont permettre d'accueillir les nouvelles générations de ferries et de rouliers, mais également de traiter le trafic transmanche de et vers la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le Brexit est un enjeu fort pour les Hauts-de-France, aussi bien au niveau du transport de marchandises, au port de Dunkerque, notamment, mais également en termes de transport de passagers. Ainsi s'achève cette chronique consacrée au transport de marchandises et au transport maritime international. Vous l'aurez compris, la question du transport de marchandises va prendre une résonance particulière en ces périodes de préparation des fêtes de fin d'année. Et vous l'avez très certainement entendu dans les médias ces dernières semaines, on craint pour certains types de produits des pénuries, notamment sur les jouets. Bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais vous voyez bien quel est le lien entre l'approvisionnement dans les rayons des supermarchés et des magasins de jouets et leur approvisionnement et leur transport depuis leur zone de production. Les chaînes logistiques internationales, elles ont été profondément désorganisées par la crise sanitaire, et justement, c'est pour cela qu'il y a ces questions de pénurie que l'on entend aujourd'hui. Je parlais des jouets juste avant, mais c'est vrai aussi pour des matières premières, pour le bois, pour le sable et pour les composants électroniques. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la reconfiguration des flux internationaux logistiques dans les semaines et dans les mois à venir. Justement, comment ces flux vont rebondir, vont se redessiner à la sortie de la crise sanitaire. Et d'une manière plus immédiate, la question du commerce maritime, du transport maritime, on la touche du doigt aujourd'hui avec la question du Brexit, avec l'octroi des licences de pêche aux bateaux français par les autorités britanniques pour que les pêcheurs français puissent aller pêcher dans les eaux britanniques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a de très fortes tensions entre le président Macron et Boris Johnson. En attendant de vous retrouver pour une prochaine chronique, je vous souhaite de bonnes préparations de fêtes de fin d'année et de trouver tous les cadeaux que vous souhaitez faire à vos proches dans les rayons de vos magasins préférés.